Marie contre le cardinal. Soutenu par le père Joseph, Richelieu va tenter de convaincre Louis XIII que sa politique est la seule possible. C'est compter sans Marie de Médicis, sans les dévots. La paix ? Richelieu ne l'entend pas de cette oreille. Il n'en a pas fini avec son plan. Si la première étape est terminée, les Huguenots étant mis au pas, la deuxième peut commencer. Laisser le champ libre aux Espagnols et aux Habsbourg ? De la folie ! Ils entourent le royaume de France. Et si la paix est signée, ils n'auront de cesse de grignoter le territoire, sournoisement, puis franchement, et de s'en partager les dépouilles. La paix ? Non, la guerre. Il faut leur faire la guerre. Et pour cela, nouer des alliances les plus inattendues possibles. Les Espagnols finiront par être vaincus à la bataille de Rocroi. En attendant, le parti des dévots, connaissant les plans de Richelieu et du père Joseph, l'éminence grise, se déchaîne, Marie de Médicis en tête. Soudain, un événement risque de bouleverser tous les plans du cardinal. Le 21 septembre 1630, à Lyon, Louis XIII est atteint d'une terrible colique qui lui arrache des cris de douleur. Son médecin, Renaudot, ne parvient pas à améliorer l'état du royal patient qu'on déclare presque mort. Les reines Marie de Médicis et Anne d'Autriche parviennent à arracher au roi la promesse de disgracier Richelieu. Dans l'esprit des conseillers, c'est déjà fait, et on se demande ce qu'on va faire du cardinal. Le chancelier Marillac propose qu'on lui coupe la tête.
La Gazette de Renaudot. En 1625, deux libraires parisiens ont une idée lumineuse pour gagner régulièrement un peu d'argent. Créer une feuille qui informera les lecteurs de ce qui se passe ici ou là en France. Ils intitulent cette feuille « Nouvelles ordinaires de divers endroits ». Venu de Loudun à Paris, cette même année, Théophraste Renaudot, 1586-1653, nommé médecin du roi, y ouvre un bureau d'adresse, l'ancêtre de l'ANPE. Un peu plus tard, il crée la feuille du bureau d'adresse où sont publiées offres d'emploi et petites annonces. En 1631, Théophraste Renaudot, qui a remarqué la feuille des deux libraires, se dit que lui aussi peut en faire autant, et même faire mieux, en donnant aux nouvelles un ton plus concis, sous forme de dépêche, informant de ce qui se passe non seulement en France, mais dans le monde connu. Ainsi naît la Gazette, de l'italien Gazetta, nom d'un journal créé à Venise et qui coûtait une pièce de monnaie appelée la Gazetta. Malgré la plainte des deux libraires pour contrefaçon, Renaudot obtient le privilège royal pour sa Gazette, dont Richelieu découvre l'utilité et le pouvoir. En effet, le cardinal utilise la feuille de Renaudot pour construire auprès du peuple son image, faire passer ses idées. Richelieu le moderne vient de découvrir le pouvoir et l'influence de la presse.
Le 10 novembre 1630, revenu à Paris, Louis XIII est guéri. Richelieu n'a pas encore été averti de sa disgrâce. Le lendemain, Marie de Médicis, qui est pressée par le parti des dévots, convoque en son palais du Luxembourg, l'actuel Sénat, son fils, le roi. Elle le réprimande vertement. Qu'attend-il pour renvoyer Richelieu ? Richelieu tente d'accéder au lieu où se déroule cette conversation échauffée et décisive, mais Marie de Médicis, qui prévoit tout, a pris soin de faire garder toutes les portes. Sauf une. Une petite porte de service que Richelieu parvient à faire ouvrir par une servante. Il entre dans la pièce et se trouve au cœur de la mêlée. La reine, tout étonnée, voit apparaître Richelieu et cette apparition ne fait que redoubler sa colère bruyante d'italienne déchaînée. Elle crie au roi qu'elle ne veut plus de ce cardinal au conseil, qu'il doit s'en séparer immédiatement. En furie, elle sort et annonce à son parti que c'en est presque fait de l'éminence rouge, que le roi a presque pris sa décision. On la félicite, on la congratule. On se réjouit que le cardinal soit déchu. Sans doute Marillac pense-t-il déjà à demander au bourreau d'affûter sa hache. Mais Louis XIII n'a rien dit. Il est parti à Versailles, le cerveau perturbé par les vociférations de son italienne de mère. Richelieu, dans la soirée, se rend auprès de lui. Le roi l'attend, debout et souriant. « Je veux que vous continuiez à me servir. » On imagine la suite. Emprisonnement et destitution vont se succéder. Un courtisan, le comte de Sérent, aura cette phrase à propos du 10 novembre 1630. C'est la journée des dupes.
L'Académie française. François de Malherbe, 1555-1628, poète de cour, effectua en son temps une sorte de toilettage de la langue française après l'enthousiasme créateur de la Renaissance qui avait fourni de nombreux mots de vocabulaire. Une habitude était née, chercher quel terme, quelle règle allait le mieux servir la langue, la clarté de la pensée, en discuter et décider. À la mort de Malherbe, des passionnés poursuivent sa tâche. Richelieu entend parler d'eux. Il leur propose de former un corps officiel qui se réunira régulièrement sous une autorité publique. Des statuts sont rédigés en 1635 qui sont enregistrés en 1637. Valentin Conrard, premier secrétaire de l'Académie, issu d'une famille protestante de banquiers et de commerçants, fixe à 40 le nombre d'académistes, rebaptisés académiciens, qui vont composer l'Académie française. L'article 24 des premiers statuts précise que « La principale fonction de l'Académie sera de travailler avec tout le soin et toute la diligence possible à donner des règles certaines à notre langue et à la rendre pure, éloquente et capable de traiter les arts et les sciences. » La rédaction d'un dictionnaire est prévue. La première édition paraît en 1694. Richelieu fait aussi bâtir le Palais-Royal, l'église de la Sorbonne qui renferme son tombeau.